Alors, comme vous l'avez vu, j'ai un peu intitulé ce message aux extrémités de la Terre, parce que la Frat prend aujourd'hui une couleur un peu particulière, hein, une couleur brésilienne, avec tout ce que cela signifie. C'est par exemple ça, hein, un peu dans notre imaginaire. Je ne sais pas si Eduardo, tu reconnais l'endroit. C'est dans une région qui s'appelle la région d'Ilhéus. Je ne sais pas si je prononce juste, hein, vous me direz. Pardon? Ouais, c'est chez vous, j'ai fait exprès, ouais. Je me souviens, c'est la plage qui est devant la maison d'Eduardo. Donc vous pouvez aller lui rendre visite au Brésil, il sera tout content de vous accueillir. Et puis, c'est vrai qu'on a pu méditer quelques textes, quelques rencontres aussi. Et puis une, c'est une rencontre qui se passe dans le désert, mais c'est avec un apôtre qui s'appelle Philippe, qui a donné son nom à une ville aussi qui est avec beaucoup d'eau, la ville de Césarée de Philippe. C'est là qu'il y a les sources de l'Hermon en Israël. Et puis ce Philippe, il nous a raconté différentes choses de la Bible sur lui, mais pas beaucoup, beaucoup. On en a pris une de ces rencontres, une rencontre aussi totalement improbable, où on voit, un peu comme dans les témoignages qui viennent de nous être racontés, que les voies du Saint-Esprit, on ne les comprend pas toujours, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des résultats puis qu'il y a des fruits. Et puis là, déjà avec Philippe, on se rend compte qu'il y a des résultats, qu'il y a des fruits. On ne sait pas exactement par où c'est passé, mais il y a des résultats. Alors voilà ce que nous dit la parole qui nous relate une de ces rencontres de Philippe. On trouve ce texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 8. C'est à partir du verset 26 pour ceux qui veulent suivre, puis sinon il y a le texte derrière moi. L'ange du Seigneur dit à Philippe, pars vers le sud, sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. En ce moment, il n'y a personne sur la route, mais pars quand même, j'ajoute. Philippe part tout de suite, et en chemin, il voit un homme. C'est un eunuque éthiopien, un fonctionnaire important. C'est lui qui s'occupe de toutes les richesses de Candace, la reine d'Éthiopie. Il est venu de Jérusalem pour adorer Dieu et il retourne chez lui. Il est assis dans une voiture à cheval et lit le livre du prophète Ésaïe. Alors l'Esprit Saint dit à Philippe, avance jusqu'à cette voiture. Philippe y va en courant. Il entend l'Éthiopien qui lit le livre du prophète Ésaïe et Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'homme répond, mais comment est-ce que je peux comprendre si personne ne m'explique de quoi il s'agit? Et il invite Philippe à monter dans la voiture et à s'asseoir à côté de lui. Il est en train de lire ce passage du prophète Ésaïe. Il est comme un mouton qu'on mène à la boucherie, comme un agneau qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il garde le silence. On le compte pour rien et on ne lui fait pas justice. Qui pourra parler de ses enfants? Personne. En effet, on a supprimé sa vie de la terre. L'Éthiopien demande à Philippe, mais s'il te plaît, dis-moi, le prophète, il parle de qui là? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prend la parole et à partir de ce passage des livres saints, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuent leur chemin et arrivent à un endroit où il y a de l'eau. L'Éthiopien dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fait arrêter la voiture. Philippe et l'Éthiopien descendent tous les deux dans l'eau et Philippe le baptise. Quand ils sortent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlève Philippe. L'Éthiopien ne le voit plus, mais il continue son chemin, tout joyeux. Philippe se retrouve à Azote, puis il part pour Césarée. Et en chemin, il annonce la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passe. Amen. À toutes les nations, finalement, ça commence ici. C'est le premier épisode dans la Bible où on voit que les apôtres commencent à sortir de Jérusalem, ils commencent à aller vers d'autres endroits pour annoncer ce salut, cette bonne nouvelle de la venue de Jésus et de qui il est à toutes les nations qui sont sur la terre. Alors nous, on en a bénéficié en Europe, et puis après, c'est allé jusqu'aux extrémités de la terre pour nous, le Brésil, par exemple, la Nouvelle-Zélande, différents endroits où, et je trouve ça absolument extraordinaire, peut-être qu'on trouve ça normal parce qu'on a l'habitude maintenant, mais on se dit, cette bonne nouvelle qui s'est répandue de cette manière-là et avec cette vigueur-là, c'est extraordinaire. Puis ce que je trouve extraordinaire maintenant, c'est que les personnes qui ont été évangélisées aux extrémités de la terre, elles reviennent chez nous et puis elles évangélisent chez nous. C'est extraordinaire. Dylan, par exemple, ben, il a reçu le Seigneur, d'une certaine façon, de la part de cette cellule brésilienne de la Frate, alors qu'il est suisse et qu'il est né en Suisse. Donc, il y a vraiment ces échanges-là, ces voies de l'esprit qui sont là. Et puis, ben, dans notre église, on essaye aussi de porter ce témoignage d'une église aux accents différents. Déjà, il y a pasteur jurassien. Et puis, encore des accents, là, attendus avec Sylvana, bien plus lointains, mais tous avec ce même cœur, cet même amour pour le Seigneur. Donc, tout commence avec cet apôtre, Philippe, qui commence son ministère d'abord par la Samarie, chez un magicien qui s'appelait Simon. Simon le voit arriver, il dit « Là, je reconnais quelqu'un qui a quelque chose de spécial en lui. » Ce quelque chose de spécial, c'était l'Esprit Saint. Et puis Simon, avec toute sa famille, se convertit. Deuxième étape de son ministère, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec l'Esprit Saint, on est un peu surpris. Parce que qu'est-ce que lui demande Jésus à travers l'Esprit Saint? Il lui dit « Pars au sud de Jérusalem. » Et il lui précise encore quelque chose. « Sur cette route, il n'y a personne. » Mais part quand même. Et qu'est-ce que fait Philippe? Il ne dit pas, attends, là, j'ai une lubie, je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il m'a dit. Non, non. Il se met en route, il même dit dans le texte qu'il a couru dans cette direction-là. Il n'y a rien, et pourtant Dieu lui demande d'aller. Et ce rien va se transformer en tout, puisqu'il va rencontrer quelqu'un, il va se casser la figure sur cet eunuque éthiopien. Et là, de nouveau, présence du Saint-Esprit, l'Esprit lui dit, va à la rencontre de cet homme. Et puis je crois que pour nous, en tant que croyants, puis ces témoignages nous le montrent bien, vraiment la manière de rencontrer Dieu, c'est aussi la manière de rencontrer les autres. C'est pas, ça arrive des fois que c'est des événements extraordinaires où on se rencontre Dieu de manière seule, mais souvent, c'est une rencontre entre êtres humains, puis Dieu est au milieu de cette rencontre. L'Esprit Saint travaille dans ces rencontres-là, de cœur à cœur entre les hommes. Alors moi, j'imagine sur ce chariot, là, vous l'imaginez, il est sur son cheval, c'est quelqu'un qui a de la prestance. Je pense qu'on aurait pu trouver toutes les excuses pour ne pas y aller, donc je vais mal parler, c'est un peu gênant, je ne le connais pas. Enfin, je vous laisse faire toute la liste de choses qui a pu se passer dans la tête de Philippe. Et pourtant, il décide de monter. Puis j'imagine quelque chose de très vivant de ces deux hommes. Il y a quelque chose de magnifique dans cette rencontre, où il y a un dialogue intense, où il y a quelqu'un qui est en recherche, malgré le fait qu'il soit très très haut fonctionnaire, il n'est pas blasé. Il en recherche, il a envie d'en savoir plus, il est curieux, il creuse la parole. Et puis, Philippe est là pour lui répondre et donner réponse à toutes ses questions. J'imagine vraiment quelque chose de joyeux, de vivant. Et puis, c'est un peu le rêve quand on imagine de partager la parole de Dieu, qui est toujours cette vie, ce dynamisme qui soit là pour essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Aujourd'hui aussi, on essaye de vivre ces moments-là où, à travers les préparations, à travers la parole, beaucoup de questions surgissaient, pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce que ça peut me dire pour ma vie, qu'est-ce que ça peut m'apprendre pour ma vie de futur baptisé. Il y a quelque chose de fort là, et qui peut toujours nous servir d'exemple, d'inspiration pour ce que nous avons à vivre. Et finalement, et c'est ça que j'aimerais vous laisser, c'est que la vie chrétienne, je pense que vous l'avez déjà bien saisi, vous l'avez déjà bien compris, la vie chrétienne c'est un vaste mouvement, c'est un mouvement qui comprend des millions et des millions de personnes sur cette terre, mais c'est aussi un mouvement dans nos vies personnelles. Puis moi, j'ai été touché, Dylan, dans ton témoignage particulièrement, de se dire, mais quand je ne connaissais pas Jésus, je n'avais pas envie de me transformer. Et puis, avec la présence de Jésus dans ma vie, j'ai envie de me transformer. J'ai envie d'être une autre personne, j'ai envie d'être quelqu'un qui fait le bien autour de moi. Et je trouve ça extraordinaire, c'est très fort ce que tu nous as partagé là, parce qu'effectivement, la vie chrétienne, c'est une vie de transformation. C'est une vie de transformation... Peut-être qu'on ne voit pas forcément tous les jours, mais qui à la fin porte du fruit. Ce qu'on appelle avec ce grand terme de la sanctification, c'est rien d'autre qu'une vie de transformation où on se laisse modeler par l'Esprit. Puis je nous pose aussi la question à nous qui avons peut-être reçu le baptême il y a plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, quelle est encore cette puissance de transformation dans ma vie? Est-ce qu'elle est encore là, bien présente? Est-ce que c'est encore un mouvement? Est-ce que c'est peut-être encore un peu sclérosé parce que l'habitude est venue? Et puis que finalement, ça roule comme si de rien n'était. Ce que j'aime beaucoup dans ce dialogue, c'est qu'on perçoit cette puissance de transformation. Puis après, si vous prenez toutes les lettres de Paul, toutes les prophéties des prophètes au peuple d'Israël, c'est chaque fois dans un but, c'est de transformer le cœur de l'homme pour qu'il ressemble de plus en plus à celui de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Hein. C'est vraiment ça, c'est de se dire, il y a cette transformation qui peut arriver. Donc le mouvement, le dynamisme, c'est effectivement une des bases de la vie chrétienne. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en route, qu'on est en mouvement, qu'on est sur ce chemin-là. Et j'aimerais vraiment vous encourager à l'être toujours de manière égale, j'ai envie de dire. Dans le sens que le mouvement, ça va vous aider à en apprendre plus, ça va vous aider à rester vivant avec le Christ. Or, on n'est pas toujours au même rythme, mais on a toujours cette envie, cette visée-là. Et puis, si on lit bien ce texte de l'eunuque éthiopien, on se rend compte qu'il y a une personne qui est au centre. C'est Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre. Et puis, c'est souvent ce qui fait un peu le point de divergence si on est croyant ou si on n'est pas croyant. C'est notre attachement à Jésus-Christ. Or, je dis des choses qui sont évidentes, mais je dis des choses qui sont évidentes et profondes en même temps, je crois. Parce qu'ils lisent la parole. Si on lit la parole, effectivement, avec cette histoire d'agneau, et puis qui va avec, dans une boucherie, et puis qu'on n'y comprend rien, si on n'a pas la clé de lecture que c'est de Jésus qu'il s'agit, et puis que c'est pour moi qu'il a passé par ces épreuves-là, effectivement, c'est un peu obscur. Si on a en idée, et dans nos têtes, dans notre cœur, le fait que Jésus se soit effectivement donné pour nous en lisant ces versets-là, ça change toute notre perspective. Et puis je crois que c'est un encouragement tout simple, tout concret, de se dire quand on lit la parole, mettons Jésus au centre de cette parole et mettons-le au centre de notre prière. Et finalement, à l'exemple de Philippe, je vous encourage à rester à l'écoute de l'Esprit-Saint. Ça peut être des choses peut-être parfois un peu farfelues, comme d'aller sur une route où il n'y a encore personne. Ça peut être de vous donner le courage de monter sur un char qui est en marche avec une personne que vous ne connaissez pas puis qui paraît un peu difficile d'accès parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de prestance. Mais qu'on puisse rester attentif à cette voix de l'Esprit-Saint qui des fois est très forte, des fois qui est très à peine perceptible, mais qu'on puisse l'écouter, et je vous encourage à toujours l'écouter, vous mettre à l'écoute de cet Esprit-Saint qui souvent nous fait sortir de nos rails. Souvent nous fait aller un peu dans des idées ou dans des chemins qu'on n'avait pas forcément prévus d'avance. Donc le mouvement, oui, c'est bon pour la santé, faites 5 exercices par jour, mais c'est aussi bon pour notre vie de croyante et de croyant, parce qu'on va découvrir petit à petit comment Dieu nous transforme et comment Dieu agit à travers nous. Alors que le Seigneur nous garde, tous ensemble, en tant que communauté, en qu'assemblée, en mouvement, en tant qu'aussi individu croyant dans nos différents espaces de vie, qu'on puisse rester en mouvement. C'est notre prière et c'est ma prière pour vous trois ce matin et pour les jours, les mois qui vont suivre cette magnifique journée qui est pour vous aujourd'hui. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, troisième partie de ce culte, on va pouvoir partager ce pain, ce vin. Et puis c'est pour nous un symbole d'accueil dans notre communauté, un symbole de se dire on fait partie de la même famille, celle des enfants de Dieu, et puis qu'on pourra partager ce pain tous ensemble avec Jean-Pierre. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu prends des fois des chemins que nous ne comprenons pas, mais qu'après coup, nous les comprenons. Merci pour ces trois parcours de vie de Natalia, de Sylvana, de Dylan. Merci pour ce qu'ils nous montrent de toi. Merci pour la manière dont il nous parle de ton action dans nos vies individuelles et dans nos vies de rencontre les uns avec les autres. Merci parce que tu te révèles encore aujourd'hui. Merci parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui nous met en mouvement. Et c'est pour ça que nous voulons te louer. Je te demande une bénédiction particulière sur Natalia, Sylvana et Dylan, que tu puisses les bénir, les encourager, leur donner ta joie dans cette marche à ta suite. Et que nous puissions, en communauté, les accueillir comme dans une famille. C'est ce que je te demande dans le nom de Jésus. Amen.